c'est un immense plaisir pour moi d'ouvrir ce dialogue et de présider ce dialogue entre Alain Touraine et Emmanuel Castells, car nous avons accompli tous trois déjà côte à côte un très long parcours. Emmanuel et moi avons effectué nos études doctorales sous la direction d'Alain et nous sommes restés depuis très étroitement liés malgré la carrière internationale de Manuel. Aussi, je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir confié cette tâche et merci à Yvon Le Bot, à Michel Vieborka et aussi à Alain, dont je sais qu'il a aussi eu son mot à dire. Je crois que Manuel et Alain n'ont pas besoin de moi pour dialoguer ce soir. C'est un long dialogue qu'ils ont entamé dès le début des études doctorales de Manuel et qui ne s'est pas interrompu tout au long de ces années. Et aujourd'hui, ce dialogue va se développer autour du dernier livre d'Alain Touraine, « Défense de la modernité », publié en octobre dernier. Et ce livre qui n'est pas le dernier, on nous l'a dit, mais qui est d'une grande importance. Ce livre s'inscrit dans la réflexion que mène la réflexion centrale d'Alain Touraine, qui l'a conduit tout au long de son œuvre et qui porte sur la décomposition de cette société industrielle et sur le monde qui lui fait place et dont il essaye de discerner les éléments, les composantes. Et cette réflexion, on peut en trouver des jalons principaux dès 1969, la société post-industrielle, où il y avait déjà cette idée, et bien sûr, production de la société, 73, critique de la modernité, 92, la fin des sociétés, 2013. Donc on voit bien qu'il y a un parcours, et au fil de son œuvre, qui se déroule au plus près de l'actualité sociale, qu'il scrute sans cesser d'essayer de conceptualiser ces mouvements, il nous livre une interprétation sociologique, je dirais, de plus en plus aboutie dans ce livre, de ce qui est en train de remplacer aujourd'hui la société industrielle en décomposition. Quels sont ses nouveaux acteurs ? Quelle est la conflictualité sociale qui la dynamise, qui est au cœur de sa dynamique ? Et ce qui est formidable, je trouve, dans l'œuvre d'Alain Touraine, c'est qu'il nous donne à voir le commencement d'un nouveau monde. Là où beaucoup de visions postmodernistes, nihilistes, n'aperçoivent que chute et montée d'un individualisme exacerbé. Donc, à lire Alain Touraine, il y a de l'espoir. Il y a l'espoir qu'un autre type de vie collective et de vie individuelle soit en germe, qui repose sur l'action humaine. Il y a cette croyance en très humaniste, finalement, de l'action humaine comme capacité d'animer de nouveaux mouvements sociaux, et avec cette belle idée et cette belle thèse de nouveaux mouvements sociaux qui luttent pour la défense des droits humains universels, dignité, égalité, et contre les logiques d'intérêt, contre les logiques de pouvoir. Je crois que on reviendra même peut-être dans l'actualité la plus récente sur ces questions, parce que vous nous aidez à les penser par cet ouvrage. Donc merci Alain pour cette œuvre, pour ce dernier livre, et je suis heureuse de pouvoir vous exprimer ma reconnaissance, non seulement pour l'intelligibilité que vous nous apportez à travers votre œuvre sur ce monde en train d'advenir, mais aussi, plus personnellement, sur le fait qu'il a été pour moi que votre œuvre a été pour moi une source puissante et constante d'inspiration, notamment, je dirais, dans la manière de faire de la sociologie, dans l'exigence de produire de la connaissance au plus loin des idéologies, même si je n'ai pas travaillé directement sur des thèmes touréniens, compte tenu de mes objets autour de la protection sociale, des âges de la vie, de l'avancée en âge, mais ce que vous apportez dans vos travaux m'ont aidé à penser cette évolution et la manière dont la sécurité et les droits humains peuvent se modifier dans ce monde en devenir. Merci, Alain Touraine, pour tout ce que vous avez fait. Et on ne va pas vous présenter ici, donc pas plus d'ailleurs, Manuel. Je dirais quand même pour Manuel, non ? Tu veux pas ? Bon, alors. Bon, donc on abrège les présentations puisque je crois que vous êtes tous les deux suffisamment connus. Et je laisse la parole à Manuel pour une première question et donc un premier échange avec Alain.
Merci beaucoup, Anne-Marie. Marie et moi, on est comme sœurs et frères. Permettez-moi d'abord de remercier Yvon, les organisateurs de ces colloques, pour me permettre d'avoir cet échange, pour moi très cher, avec mon père intellectuel, qui a toujours été le père intellectuel toute ma vie. Et toujours, tout ce que je fais est directement ou indirectement inspiré par Alain. Pendant longtemps, il ne le reconnaissait pas. Il accepta. Et j'utilise pas les mêmes mots, mais c'est les mêmes idées, les mêmes concepts, les mêmes perspectives. Et aussi, quand même, dire combien je suis heureux de retrouver ici Marisol Touraine, que j'ai connue quand j'étais toute petite, et pour laquelle j'ai gardé une énorme estime et une grande tendresse. Merci, Marisol. Alors, Alain, j'ai préparé trois questions. Probablement avec la première, on passera le reste de la soirée. Je pose après la première question et ensuite on voit. Et je pense que ce n'est pas trop formel, donc Alain peut dire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Bon, la première chose, c'est vraiment au cœur de ta théorie, et heureusement tu l'as déjà mentionné avant, et les rapports de ta théorie avec la neuroscience. Avec la neuroscience pure et dure, et en particulier avec les courants qui s'est développé ces dernières années, des neurosciences sociales, mais qui est vraiment la pointe de la recherche scientifique, y compris MRI du cerveau et élaboration clinique, etc. Donc, pas de neurosciences, pas de neuroscientifiques qui font de la sociologie à côté. Et il y en a plusieurs, il y en a plusieurs noms, mais pas beaucoup. Pas plus d'une dizaine dans le monde. Et un des plus intéressants que tu connais, que je connais, c'est Antonio Damasio, qui en réalité c'est Antonio et Hanna Damasio, parce qu'ils travaillent ensemble et que sans les recherches technologiques qu'elle fait sur le cerveau, il n'aurait pas pu théoriser et écrire. Donc c'est vraiment un de ces cas où c'est les deux Damasio qui font. Alors, tu connais son. en partie de son œuvre, mais pour moi, le livre qui est fondamental, c'est celui qui s'intitule en anglais « Self comes to mind ». Le soi arrive à la conscience.
Oui.
Qui est vraiment, d'une certaine manière, c'est le versant neuroscientifique, donc biologique, en dernière instance, des mêmes problèmes que tu te poses. Et du coup, ce n'est pas simplement une idée de rapprocher deux grandes théories, c'est l'idée que je pense profondément qu'il faut évoluer vers un véritable dialogue et même intégration des sciences. Dans 100 ans, dans 200 ans, non pas par les méthodes, bien sûr, parce que la nature est différente, la biologie est différente, etc. Mais du fait, si on arrive à parler le même langage conceptuel, et alors ensuite, les expériences, les données, etc., c'est différent. Mais au moins qu'on puisse s'entendre. Alors, j'ai construit un petit schéma sur reliant la théorie de Damasio à ta théorie telle qu'exprimée dans ton chapitre sur le sujet humain qui commence à la page 113 de ton livre. Voilà. Alors, je t'explique d'abord très rapidement quel est l'essentiel, le noyau de cette théorie, tel qu'il sortit aussi de mon dialogue constant avec Damasio. À la base de l'humain, il y a d'un côté, un cerveau dont la fonction n'est pas sur le cerveau humain, c'est de faire fonctionner l'ensemble de notre corps à travers les réseaux des neurones. Bon. La chose essentielle, déjà ça c'est un acquis scientifique, le cerveau et donc l'être humain ne peut fonctionner qu'à partir de la reconnaissance du soi, à partir de la reconnaissance que c'est moi. Ce cerveau n'est pas un cerveau, ça c'est pas un corps, c'est mon cerveau. Il faut cette reconnaissance pour que s'organisent les rapports au corps. D'une part, sont le cerveau qui est la conscience, s'organise sur la conscience de soi et se rapporte au corps. C'est-à-dire le corps, le cerveau, c'est la même chose, mais les fonctions dominantes sont le cerveau. Et ce corps s'articule à son environnement biologique, c'est-à-dire écosystème d'une certaine manière, à travers des réseaux sensoriels, biologiques, qui sont traduits dans le cerveau. De notre côté, les soi, ce cerveau, soi, a un rapport social à travers la communication, qui se rapporte aux autres êtres et qui ferme le système avec un système de rétroaction. Ce qui veut dire que finalement, nous, sujets humains, on est une conscience de soi qui organise les réseaux de notre corps et de notre rapport à l'environnement biologique avec d'autres réseaux qui organisent la communication avec des êtres sociaux et c'est cet ensemble-là qui nous fait sujet. Bien sûr, ça, c'est individuel, mais ce n'est pas individuel parce que dès qu'on dit qu'il y a un rapport social de communication, à travers la communication, ça crée les sociétés. Les sociétés sont créées par les individus, ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas les sociétés qui organisent la vie des individus. Elles sont le cadre, le contexte, tout ce qu'on veut, mais matériellement parlant, les sociétés n'existent pas matériellement. Existent les institutions, existe ce que j'appelle la cristallisation des pratiques sociales à partir de l'action humaine. Bon, voilà. Donc, tout ça, c'est simplement pour mieux faire comprendre la question, quoique tu l'as compris dès le premier moment, mais mon point est si on parle de la conscience de soi, il faut partir à la fois de la traduction de cette conscience de soi en pratique sociale qui passe par un système de communication. Et ça a toujours été le cas. Ce n'est pas simplement notre société de communication. Alors, qu'est-ce qui est nouveau? Tout simplement la manière dont la communication se passe. Et donc, l'organisation d'une communication permanente et en réseau rétroactif qui font que cette communication organise toute action humaine en temps réel et sur une échelle planétaire. Alors, ma question à toi, c'est est-ce que tu vois un rapport utile ou pas entre la conception que tu as développée des sociétés produites par les sujets centrées sur la conscience de soi avec les découvertes de la neuroscience sociale ces dernières années?
J'ai droit à... Bon, merci. Ce qu'il y a d'embarrassant dans ta question, c'est pour un malheureux petit sociologue de sembler se mesurer à la puissance d'études, d'analyses des sciences les plus fondamentales dans notre société, c'est-à-dire la connaissance du quartier général, c'est-à-dire du cerveau. Alors, je ne voudrais pas avoir l'air ridiculement prétentieux, mais je voudrais dire honnêtement, d'une part, ce qui fait que j'ai envie de répondre oui à ta question, et d'autre part, je vais dire ce qu'à mon avis, les sciences humaines, la connaissance de l'homme, de l'être humain, peut recevoir comme confirmation, c'est là où je m'excuse, je ne voudrais pas avoir l'air vraiment prétentieux, je ne veux pas dire que c'est les sciences de la nature qui confirment les sciences humaines, ce qui serait peut-être un peu beaucoup, mais, je ne serais pas tellement loin de dire ça. Je veux dire ceci. Premièrement, de recentrer tout sur le sujet humain, c'est-à-dire d'abord sur le cerveau et pas sur les institutions, oui. Voilà. Et ça, c'est quand même fondamental. Comment ? C'est le retournement. Et ce n'est pas le hasard, c'est que cela suppose des deux côtés des pratiques qui sont suffisamment contrôlées et complexes en elles-mêmes pour mériter une telle interprétation. Bon, autrement dit, ce sont deux discours qui relèvent de sociétés, comme on disait autrefois, hautement développées. Et pour être très clair là-dessus, ce que j'appelle hautement développé, c'est-à-dire exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire des sociétés qui mettent au centre de leur analyse leur action sur elles-mêmes. Alors, je me permets, parce que pour moi, c'est les choses en... une extrême importance, je me permets une petite explication de texte là-dessus. Pour moi, ce que j'appelle d'un terme qui n'est pas bon, mais qui est indispensable, j'en connais pas d'autre, la modernité, c'est qu'il y a, à partir d'un certain moment, des sociétés, à l'opposé des très nombreuses sociétés qu'on peut appeler préhistoriques ou qu'autrefois on appelait primitive, qu'il y a des sociétés qui se définissent par leur action sur elles-mêmes, et autrement dit, la création d'une image d'elles-mêmes comme transformateur. Ce qui n'a rien de mystérieux quand nous parlons d'investissement, quand nous parlons de travail, quand nous parlons de transformation, de ça, c'est ça que nous voulons dire. Mais ce qui m'intéresse, et ce que nous devons aux biologistes, c'est de dire il vient un moment où la chose essentielle n'est pas la connaissance de ce que vous transformez. C'est la pensée que vous devenez le créateur, vous devenez Dieu. C'est ça quand même, c'est quand même pas un détail. Nous sommes nés créatures, nous devenons Dieu, nous devenons créateurs.
Ah, y compris pour la destruction.
Mais ce qui veut dire quand même que c'est les scientifiques qui nous ont permis ça. Bon. Mais nous, on peut trouver le sens de ça. Et je pense que sans nous, nous ne pouvons pas, les scientifiques ne peuvent pas vraiment évaluer l'importance de leur propre action. C'est pourquoi je voudrais prendre un peu la défense de celui qui a été attaqué par l'ami Damasio, ce qu'on comprendra dans ce pays au moins. L'erreur de Descartes, oui, mais enfin, cogito ergo sum, moi je ne suis pas prêt de lâcher ça.
Et je sens dont je suis.
Oui.
Alors, c'est ce que la science nous montre. C'est pas je pense dont je suis, c'est je sens dont je suis.
Alors.
Et ça, c'est le contraire de Descartes.
Non. Enfin, non, je vais te... Non, mais je te suis exactement. Je vais immédiatement commenter ce que tu viens de dire. Ce que je pense, c'est en effet, car ce n'est pas exactement ça que dit Damasio, c'est qu'il y a, disons, constitution du réel par l'action de la raison, mais tout autant et autrement par l'action de l'émotion et du sentiment. Et je vais te dire alors immédiatement ce qui pour moi a été le choc, disons, et pourquoi je donne à ça la plus grande importance, c'est qu'il est venu un moment où, sans renoncer en rien à l'action créatrice de la raison, nous avons dû reconnaître que nous créons, nous organisons, nous transformons le monde autant. Et c'est là que je retrouve d'ailleurs Castel sur la route, autant par l'action de communication qui suppose de l'émotion, qui suppose de l'interaction, qui suppose de l'action de l'homme, que par la raison. Et je vais te dire ce que me démontre Damasio, et je lui consacrerai pas mal de place dans mon prochain livre, parce que c'est Damasio, l'homme qui m'a fait comprendre absolument la nécessité de passer de ce que j'appelle, moi, la modernisation limitée à la modernisation générale. Je veux dire, nous avons vécu, et ça c'est capital, nous avons vécu pendant, disons, 1000 ans, ou je ne sais pas combien, peu importe, avec l'idée que par la connaissance du monde, on allait transformer le monde et renforcer notre emprise sur le monde. Et ce que les scientifiques à la Damasio comprennent aujourd'hui, nous font comprendre aujourd'hui, ils l'ont compris pour d'autres raisons, mais nous font comprendre aujourd'hui, c'est que nous arrivons au moment où la chose importante n'est plus de savoir comment est fait le monde, ce qui est indispensable, mais de comprendre en plus comment nous, par notre comportement et notre action, nous transformons le monde et surtout nous-mêmes. Et nous sommes maintenant non plus les créateurs du monde, mais les créateurs de nous-mêmes qui créent le monde et qui transforment le monde. Et c'est ça, autrement dit, les sciences humaines sont, de ce point de vue-là, le résultat le plus noble des créations scientifiques. Je veux dire par là, sans avoir la même valeur de connaissance, mais, alors, attends, je vais venir maintenant à mon coup, à ma surprise, que je vais révéler. Et ce qui, à mon avis, va faire l'importance, c'est que nous avons créé tout notre monde sur le modèle. Il y a la raison en haut, et puis les gens inférieurs. Les gens inférieurs, c'est d'abord les hommes en haut, c'est les hommes blancs. C'est les gens en haut. Ensuite, il y a les femmes qui sont à moitié dans la nature. Elles sont chargées non pas de la production, mais de la reproduction. Et puis en dessous, il y a les colonies. civilisée, c'est-à-dire le reste du
monde. Et ensuite, il y a les animaux.
Et ensuite, il y a les animaux au sens cartésien, au sens ridicule de Descartes. Mais les animaux vont profiter, sont en train de profiter de notre découverte de ce qu'ils sont. Et ça, c'est tant mieux. Et ça, c'est tant mieux, parce qu'il y en a marre de ces saloperies qu'on fait aux animaux. Mais non, il n'y a pas de raison. Enfin, quand même, on ne peut pas tolérer indéfiniment ce qui se passe avec les animaux. Bon. Mais ce que Damasio m'a appris, enfin m'a aidé à comprendre, c'est que alors que dans les sociétés de production, c'est la raison qui commande, c'est l'ingénieur qui commande, les modèles de notre modernisation, c'est les modèles de sciences naturelles, de Newton à Darwin, mais avec la science moderne, qui parle de l'homme, de l'être, du cerveau humain. Je dirais que ce qu'il m'a appris dans une société, là c'est pas Damasio, c'est son copain Castres, qui m'a appris ça, que nous ne vivions plus dans une société de production, mais dans une société de communication. Et Castres m'a appris que dans une société de communication, l'action de la raison et l'action des émotions et des sentiments et des relations d'humain général ont la même importance, dit en termes sociologiques, c'est-à-dire il y en a marre de la domination masculine, les femmes, égalité avec les hommes. C'est ça que Damasio m'a appris.
D'accord, mais
c'est pas un détail.
Une remarque quand même. En fait, est-ce qu'ils disent la plupart de ce courant neuroscientifique, c'est non pas que c'est la raison aussi, c'est que c'est les émotions d'abord, ensuite les sentiments, et ensuite la raison. Oui, est-ce que moi je trouve dans ma recherche, alors c'est différent, là c'est la recherche en sciences sociales, la communication, et surtout, ce que j'ai fait beaucoup ces dernières années, la communication politique. Il y a une découverte fondamentale. Les gens n'agissent pas selon ce qu'ils peuvent comprendre, mais selon ce qu'ils veulent faire. Notamment, s'ils reçoivent des messages des médias, ils ne voient d'autres messages que ce qu'ils veulent entendre. Et concrètement, les gens ne regardent pas la télévision ou lisent les journaux qui savent d'avance qu'ils ne vont pas être d'accord avec eux. Oui. Donc les gens s'informent, non. C'est, ça doit être des gens qui sont conformes avec leur statut. Ça, c'est recherche empirique, qui est incontestable à ce niveau-là.
J'aime ça, mais ça ne va pas contre ce que je considère comme...
Non, et ce qui est fondamental, parce qu'en politique, ça veut dire que la politique est déterminée par les émotions.
Ouais,
et il y a tous les cons de la gauche qui disent « Non, mais bien on a un programme qui est mieux, la politique sociale, etc. » Mais non, mais on s'en fout.
C'est pas ça qu'on veut. C'est ce qui fait que la politique est auto-répétitive et plutôt... Parce que quand même, le monde dans lequel on vit, qui l'a créé ? Qui l'a créé ? Je dirais au total, moi je dirais trois personnes sont les créateurs du monde dans lequel nous vivons. Je pense que le numéro un, c'est quand même Russell. Et ensuite, après Russell, je dirais que c'est Wittgenstein, qui est l'élève de Russell directement. Et après Wittgenstein, je dirais que c'est un type que je n'aime pas du tout sur le plan personnel, mais peu importe, c'est Chomsky. C'est-à-dire, c'est les gens qui ont compris que le monde est un langage. Disons, la révolution numérique, la révolution informatique, ça veut dire le monde n'est plus fait d'objets, de relations entre objets, mais de langage et de comme dit Cassel, d'informations. Qui dit ça, c'est le premier volume, et puis ensuite, il y a la communication qui va nous aider. Alors, je dis, attention, il faut reconnaître la priorité du langage scientifique, c'est-à-dire la priorité de l'analyse en termes d'information. Mais une fois qu'on a... Parce que c'est ça qui est la révolution technologique dans laquelle nous vivons. Et c'est là où je vais reprendre ce que tu dis, mais dans un sens un peu différent. C'est une fois que tu as posé le primat fondamental de l'information, qui fait que, je ne sais pas moi, Michel Serres te dit, on a inventé l'infamie, ce qui ne me semble pas, moi, un truc tellement fondamental. Mais, bon, admettons, et puis depuis lors, il n'y a rien, sauf la révolution numérique. Et puis avant, il y avait eu Babylone et les t-shirts uniformes. Bon, mais je dirais moi que ce qui m'importe, c'est que le monde, et là je voudrais que tu ailles, je dirais plus, comment dire, de manière plus radicale dans ton sens, c'est-à-dire que non, la communication n'est pas le doublon de l'information. Le monde de la communication est séparé du monde de l'information.
Et dominant.
Et même dominant, là tu dis ça, dominant du point de vue social, pas dominant du point de vue scientifique.
Voilà.
Voilà. Donc, bon. Mais les deux choses qui sont importantes pour moi, je l'ai dit tout à l'heure, peut-être un peu vite, la grande transformation du monde industriel au monde, à l'univers numérique, c'est qu'on est passé d'un mixte humain-matériel, homme-machine, à la séparation du monde de l'information et du monde supérieur ou inférieur selon les modes et les champs d'application de la communication.
D'accord.
Et nous, gens des sciences humaines, nous travaillons, en effet, là-dessus je suis complètement d'accord, mais c'est le point capital, je suis complètement d'accord, nous travaillons dans un monde de la communication et...
Dominé par l'émotion.
Voilà. Mais qui doit être, mais ce qui est important, parce que là je veux reprendre mes billes, c'est que nous devons maintenant que nous avons fait ce monde blanc humain, blanc occidental, rationnel, etc., nous devons maintenant donner la reconnaissance de l'importance, non pas de l'émotion et du sentiment, mais de la totalité de l'être humain à tout le monde. C'est-à-dire, il faut maintenant que ceux que nous avons enfermés dans le monde naturel, nous disions, mais attendez, le monde naturel n'est pas du tout enfermé, il vous mène jusqu'en haut, et vous, les femmes, et vous, le tiers-monde, et vous, les colonisés, vous pouvez monter à égalité, et nous voulons maintenant chercher, et M. Touraine, s'il vous plaît, aidez-nous, il faut que nous trouvions une manière de faire en sorte que l'universel des Lumières appartienne aux femmes, appartienne aux colonisés, autant qu'aux hommes blancs. C'est ça qu'il va faire, M. Touraine, dans son prochain livre.
Voilà.
Non, mais je proposais à Manuel de passer à une autre question, peut-être. Si...
Là, on est arrivé au bout.
Bon, très bien.
Ça c'est paquet.
Très bien. Alors.
C'est ça qu'on fait, nous.
Ça, c'est plus compliqué, Alain, parce que ça, il faut s'engager. On constate le déclin, enfin, à nouveau, c'est mes recherches empiriques, le déclin fondamental de la pratique de la démocratie libérale, au sens Montesquieu.
Oui.
Attends.
Sacré, bon, ça, alors là, c'est le prochain chapitre.
Bon. Alors.
Tu as raison.
On constate ça, et donc avec des conséquences considérables.
Bon.
Tout le monde. Ma recherche arrive jusque-là. Pour moi, il y a un déclin parce que ça ne vit plus dans la tête des gens. À peu près 75% des gens dans le monde, y compris la France, ne pensent pas qu'ils sont gouvernés de manière légitime. D'ailleurs, il y a quelques milliers de gens qui ont dit ça dans la rue ici. Bon, et il ne s'agit pas d'un jugement de valeur, c'est un constat. Alors, donc tout le monde, actuellement, tout le monde est en train...
C'est le rejet des institutions.
Voilà. Et des agents des institutions, c'est-à-dire les gens qui font de la politique. Tous, sans exception.
La classe politique, on dit. L'expression qui est, pour un sociologue, est choquante. Oui. La politique, ce n'est pas une classe.
En italien, on dit la casta.
Oui, la casta. Mais c'est, tout ça, c'est très dangereux. Mais ce qui est...
C'est dangereux, mais c'est...
Oui, mais... C'est ce qui fait que, et de la même manière que je demande qu'on traite, c'est-à-dire comme être chargé d'universel, autant les femmes et les colonisés que les hommes blancs, Autant je demande qu'on trouve, et je n'ai pas la réponse, mais tu l'auras avant moi, parce que moi je ne serai plus là, mais je demande qu'on traite la politique comme étant capable, j'allais dire, pour prendre mon vocabulaire, de subjectiviser, disons, de faire de la subjectivation de l'émotion, ça veut dire pas de soumettre à la raison, c'est pas ça que je veux dire, c'est de reconnaître dans l'émotion et dans le sentiment la même force de communication et même d'explicitation, donc d'effet de, créé par la communication sur les êtres humains individuels et collectifs. Et c'est ça qui est, je suis complètement d'accord, le but final de notre siècle, c'est d'arriver, avant qu'on ait fait sauter la baraque, c'est d'arriver à ce que nous arrivions à
vivre ensemble.
De la subjectivation partout, chez tout le monde, et reconnaître que je peux, un peu comme les surréalistes ont reconnu que dans l'art africain, il y avait de l'art, eh bien, c'est la même chose, mais dans la politique, il y a de l'intelligence, il y a des objectifs, il y a de l'égalité, il y a etc. Exactement pour l'ensemble des populations. En fait, c'est des trucs, et, autrement dit, on retrouve ici une sorte de communauté fondamentale, un peu, je m'excuse de revenir à mes vieilles amours, mais un peu dans l'esprit des Lumières, dans ce que les Lumières ont.
C'est ça ma question. C'est ça ma question, Alain. Je vais te demander, au nom du monde, je te demande une certaine formule pour savoir comment on s'en sort. Parce que moi, je ne les donne jamais, parce que je ne sais pas. Alors, la chose... Attends.
Je l'ai donné tout à l'heure.
Bon, raisonne là. On parle toujours de comment reconstruire une démocratie. Bon. Alors, moi, ce que je dis là-dessus, c'est que il y a une forme de démocratie qui s'écroule.
Oui.
On ne va pas parler de démocratie populaire, d'autogestion de base, etc. C'est ça. Alors, mais moi, j'ai dit quelque chose de plus. Il faut retrouver la pluralité dans l'universalisme.
Exactement.
Alors, démocratie, c'est démos et oikos. Hein? Les oikos doivent s'adapter aux démos. Par exemple... La rigolade.
Pardon.
La rigolade.
C'est-à-dire le pouvoir du peuple.
C'est ça.
Mais
mon problème, ce n'est pas les kratos, c'est les démos.
Oui.
La question là est, disons, au nom de l'universalisme, au nom de ce que tu disais avant, on a créé une sorte de farce de démocratie, par exemple en Afrique décolonisée. Au début de l'Amérique latine, des institutions qui ne sont pas démocratiques, qui se vendent, qui s'achètent, qui cassent les groupes ethniques, etc. Donc, l'idée de continuer à exporter un faux universalisme de démocratie libérale est en train d'aggraver les problèmes. Alors, si on fait attention aux démos, pour savoir les kratos, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que tu acceptes l'idée que différentes cultures peuvent avoir différentes formes d'autogouvernance?
Non.
Ah, alors, ça, c'est l'universalisme colonial.
Non. Non. C'est justement, c'est ma réponse à ta question sur un multi-universalisme, ou disons, un multiculturalisme universaliste, ce que nous cherchons tous depuis très longtemps, et ce que les Anglais avaient fait relativement bien, ou même les Canadiens. Ils ont même reconnu que les Français étaient presque des êtres humains comme les Anglais. Alors, voilà. Moi, je dis ceci. Je te donne la réponse que j'ai dit tout à l'heure en employant un mot choquant. Mais il faut se comprendre. La seule réponse que je connaisse, et qui a été donnée d'ailleurs à ce moment-là, c'est il faut que l'accès à l'universalisme, c'est-à-dire le sujet, la subjectivation, soit libéré de toutes les emprises des niveaux inférieurs, c'est-à-dire économiques, politique, nationaliste, linguistique, religieux, tout ce que tu voudras. Autrement dit, il ne faut pas le répéter, mais la laïcité, mais pas la française à la con, mais la vraie laïcité, c'est-à-dire la séparation de l'universel de culture de référence des pouvoirs politiques. Ce n'est pas avec des oulémas ou des cardinaux qu'on va faire ça. Bon. Mais il s'agit, et nous le faisons constamment, nous l'avons fait, et nous le faisons quand même dans une certaine mesure constamment, il faut dégager, tant qu'à dire des conneries, je vais en dire, par l'éducation. Mais oui, elle n'est pas que de la merde. Il y a aussi des choses positives dans l'éducation. Eh bien, il faut arriver, c'est-à-dire la réflexion. La chose qui, pour moi, est fondamentale, c'est que nous apprenions, nous ne le savons pas tellement bien, nous apprenions à nous considérer comme des créateurs de nous-mêmes, comme des gens. Ce n'est pas ce que nous sommes qui est bon ou mauvais, c'est ce qui est bon, c'est être capable de réfléchir. C'est ça, si je puis dire, mon dialogue, malheureusement irréel, avec l'homme qui m'intéresse le plus, qui est celui que j'appelle Foucault II. J'aime pas sa formule latine parce que cura sui, c'est mochard. Mais épiméléas et tout, ça a une autre gueule quand même. C'est-à-dire le soin de soi, pas au sens de s'occuper de se faire les ongles, mais ça veut dire être conscient, comme le dit Foucault dans la phrase qui est au fond la plus claire. Pas gnotis et autom, pas Socrate, pas la connaissance de soi, c'est-à-dire traiter l'homme comme une chose de nature, mais le souci de soi. C'est-à-dire avoir, on pourrait presque dire, il serait plus d'accord que moi là-dessus, le gouvernement de soi, mais ça c'est le côté réacteur, enfin c'est le côté domination de soi. C'est pas de ça qu'il s'agit. Mais c'est se reconnaître comme étant créateur de soi. Et toute notre civilisation, c'est ça. Nous sommes des personnages duels, il y a deux niveaux. Il y a le niveau de l'expérience vécue, y compris de sa connaissance, et le niveau de ce que je pourrais appeler, au sens fort et moderne du terme, non pas la connaissance de soi, mais l'expérience de soi. Mais moi, je préfère employer les gros mots et dire la conscience de soi. Et là, je m'excuse, mais le type qui a dit ça le mieux, c'est le type qui a dit cogito. Et moi, là, je le défends. Il appartient à un monde qui était le monde de la domination. Les animaux machines. Bon, d'accord. Ça, c'est... on liquide ça. On liquide ça. On donne le droit de vote aux femmes, quand même. On accepte l'indépendance des colonies, quand même. Bon, etc., etc. Mais cela dit, il faut maintenant être entièrement dans ce monde de la réflexion. Ce que je demande, c'est que l'éducation soit une éducation qui nous apprenne la conscience de nous-mêmes, hein, qui nous apprenne à réfléchir sur les raisons de ce qui est possible grâce à la science ou aux sciences en général. Et voilà, c'est ça la grande transformation, c'est de passer de l'être qui est l'image du créateur ou de la nature, je dis ça pour Spinoza, ou au contraire, qui est le créateur transformateur. Et moi, je suis absolument pour le créateur transformateur. Voilà. Mais cela dit, c'est tellement plus facile de dire ça si Damasio l'a dit d'abord. Je veux dire si, parce que c'est quand même le cerveau qui fait le boulot. C'est quand même, s'il n'y avait pas de cerveau, Tu serais comme, malheureusement comme le chien des cartes. Alors, je trouve, moi, que toute notre modernisation, c'est de la réflexivité. Peut-être d'ailleurs, mais je ne suis pas compétent pour le dire, peut-être on trouverait ça un peu à partir des phénoménologues. On trouverait ça chez Merleau ou on trouverait ça chez Sartre. Ou évidemment chez les vrais phénoménologues, chez les amis.
Bon. Une troisième question, pour moi, j'arrête et tu peux commencer ensuite. Alors, sur l'histoire des... Bon, je pense que, j'ai dit cet après-midi, que des théories ou des concepts qui ne sont pas utiles pour la recherche ou pour ma recherche, je ne fais pas attention. Je ne perds pas le temps à essayer de les comprendre. Je n'ai jamais trouvé une utilité au concept ou au mot, pour moi, ce n'est pas un concept, c'est modernité. Toi, tu as fait un excellent livre qui critique de la modernité, où tu as critiqué, en fait, la conception générale de la modernité. Alors,
ce que j'ai fait dans ce livre, non. C'est dire la modernité, c'est la subjectivation.
D'accord, mais c'est pas... C'est ça, là. Et je suis d'accord. Comme je t'ai dit, je suis d'accord avec ça, je suis d'accord avec ton analyse des composants de la société actuelle, que tu appelles moderne, hypermoderne, etc. Mais,
si ça évoque le progrès, je te le laisse.
Non, Alain, il y a un problème. C'est qu'on ne peut pas utiliser un mot pour dire autre chose que ce que ce mot a dit dans l'histoire de la pensée. C'est ça. Les mots sont chargés.
Si tu veux dire, lâche-moi le mot progrès, je te le donne.
Non, je veux que tu lâches modernité.
Tu peux le voler.
Et tu viens de publier un livre contradictoire dans le terme, non pas dans le contenu, avec ta critique de la modernité. Et maintenant, tu défends de la modernité.
À cause de toi, parce que je savais que tu allais me dire ça, j'ai relu Critique de la modernité. Impeccable.
Je te dis plus. Critique de la modernité.
Impeccable, je veux dire, la modernité, c'est la subjectivation, point. C'est pas la rationalisation.
D'accord. D'accord. Critique de la modernité,
je
impeccable. Les contenus de défense de la modernité.
Non, c'est pas celui du travail, quand même.
Oui,
donc,
mais.
J'ai appris à être contre le terme de rationalisation, qui est une manière de faire celui pour nous.
Mais défense de la modernité, c'est ambigu au moins. Parce que tout le monde parle d'une autre modernité que tu parles.
Il faut changer le dictionnaire, il faut apprendre aux gens à utiliser correctement. C'est un mot que. Non, je vais le dire de manière extrêmement claire et simple. Le problème est de reconnaître l'existence des conduites humaines, de se débarrasser de ces saloperies, de ces prisons qui s'appellent le déterminisme économique, le déterminisme religieux, le déterminisme politique. Or, je ne connais qu'une manière de foutre en l'air ça et toutes les sociologies à la Bourdieu, que de dire il y a l'action de l'être humain sur l'environnement qui est liée à des conflits sociaux et qui surtout est liée à une conscience de soi, autrement dit, où l'économique n'est liée à la représentation culturelle et au conflit social que si je me mets dans l'idée que l'être humain est dédoublée par la capacité de transformation du monde et par l'action et par l'interprétation faire un ordre à la demande. Alors, je dirais que, tant qu'on ne m'aura pas donné un autre mot, mais je suis prêt, tant qu'on ne m'aura pas donné un autre, même, je dirais même franchement, avec mes goûts un peu tordus, j'accepterais bien de revenir au mot travail, qui est finalement le mot qui me fait plaisir.
Non, mais là, ce n'est pas un problème terminologique. C'est que tu ne peux pas inventer d'autres sens à un sens qui est établi. Par exemple, modernité est assimilée à modernisation, qui veut dire assimiler les sociétés latino-américaines, par exemple, aux sociétés européennes, américaines. Ça, c'était la modernisation. Toi, tu refuses. Mais c'est comme ça que ça fonctionnait, modernité en Amérique latine.
Non, la preuve, c'est qu'il y a des tas de luttes partout, il y a eu des luttes partout, et M. Lula aussi. C'est contre ça.
Est-ce que je peux m'immiscer dans ce dialogue pour ajouter peut-être un peu de braise au feu qui couve et pour vous poser la question, parce que le même problème se pose avec hypermodernité, que vous utilisez évidemment aussi. Et hypermodernité, ça a été quand même pas mal utilisé.
Mais si on ne sait pas ce que c'est modernité, hypermodernité,
oui,
c'est pire.
Et non, attendez, on va vous laisser.
Pour moi, ça veut dire donner aux femmes et aux colonisés les mêmes droits qu'aux hommes blancs.
Ça, c'est bien.
Attendez.
Alors, en fait, mieux.
Hypermodernité, ça a quand même été beaucoup utilisé par les postmodernes.
Je suis anti-postmodernisme.
Mais je le sais, c'est pour ça qu'on est surpris. On est surpris. Dans ce livre, de trouver hypermodernité. Donc, dites-nous un peu pourquoi. Pourquoi
la postmodernité. Justement, j'écris hypermodernité pour dire la postmodernité, j'emmerde. J'en veux pas.
Ils l'ont utilisé.
Non, pas du tout. Les postmodernes, écoutez, soyons sérieux. Dans les postmodernes, il y a des gens extrêmement sérieux et il y a des gens même extrêmement admirables. C'est le cœur, le noyau central de l'école de Francfort. Bon, ça oui. Je dis bien première génération. Habermas n'a rien à foutre avec tout ça. Bon, mais la première génération, disons Horkheimer pour être plus franc, mais même aussi Benjamin. Bon, tous ces gens-là, c'est ça qui est la question. Moi, je dis, si on rejette, et je parle sérieusement, si on rejette l'idée de modernité, l'idée que tout est lié à la transformation et non pas à la structure. Je suis anti-structuraliste à mort. Bon. Si on fait l'anti... Qu'est-ce qu'ils ont fait, les structuralistes? Ils ont créé toutes ces sociétés sous-développées qui refusent d'investir. Et parce qu'elles n'investissent pas, elles vivent bien, elles bouffent bien, elles se marrent. Tristotropie qui semble marrante à voir la couverture du livre. Bon, mais quand même, si on a fait la modernité, c'est essentiellement parce qu'on a inventé ce truc élémentaire qui s'appelait l'investissement. C'est-à-dire qu'on a accepté de ne pas tout bouffer. Évidemment, les gens qui bouffaient tout, ils ont vraiment bien vécu, mais ça les a amenés à la merde, ça les a amenés à être colonisés. Et on est sorti de la colonisation en investissant. Et même en faisant des choses moches, dégueulasses, comme ont fait les Anglais à la fin du XVIIIe siècle, la machine à vapeur et les machines à transformer le textile, mais ça a été formidable. Alors, on a fait souffrir des millions de gens, mais il y a aujourd'hui des milliards de gens qui vivent mieux que les gens colonisés.
C'est pas ce qu'on appelle développement ?
Mais le mot développement était un mot qui a voulu se battre, là, c'est ma jeunesse, le mot développement. Et le mot développement, je vais te dire, là, c'est évidemment pas entièrement honnête de ma part, mais que, au fond, le mot où je pense que les gens qui sont pas tout à fait de mon côté ont poussé les choses à un grand niveau d'avancement, le seul type vraiment intelligent qui est dans le monde actuel, c'est Amartya Sen, et il a dit capacité. Qu'est-ce que ça veut dire capacité? Qu'est-ce que ça veut dire?
Créatrice, société créatrice.
Pas seulement. Ça veut dire les sociétés qui se donnent les moyens d'agir. C'est-à-dire, il y a de l'institutionnel, il y a du social, il y a du welfare.
C'est ça le développement par contre.
C'est pas si mal.
Mais je ne dis pas que c'est mal, je dis que tu mélanges des idées de domination culturelle
basées
sur la modernité,
non,
tu le mélanges,
non,
parce qu'elles sont là.
Non, je ne veux pas.
Alors,
si tu dis
développement, on s'entend.
Non, je te dis que ces mots deviennent des mots parfaitement acceptables et plus qu'acceptables, libérateurs. C'est pourquoi je dis, je ne veux pas un mouvement social de femmes qui se libèrent. Je veux un mouvement de femmes libératrices. Et pas du tout la même.
Tout à fait d'accord.
Exactement comme j'étais pour la décolonisation, comme tout le monde. Décolonisation, pas colonisation.
Non, non, c'est à lui.
Ah bon ? Alors, sur modernité, hypermodernité ou...
Alors là, je ne lâcherai rien.
Non, je vois ça.
Je ne lâcherai rien parce qu'on va se retrouver chez ces connards d'écologistes Jean-Ségolène Royal qui vont... on va être dans la confusion, on va être dans rien du tout. Et ensuite, on va dire, on ne peut rien y faire, on ne peut rien y faire. Bon. Ben oui, on ne fait rien. On ne fait rien, on va reconnaître... D'ailleurs, tout à l'heure, il a dit des choses très intéressantes par Farad et par Jorka, desquelles je suis très proche parce que... Mais c'est des choses très compliquées. Là-dessus, j'avancerai un petit pas et tu peux y aller. Je ne vais pas me défendre trop parce que je pense en effet qu'il faut être capable de pousser. Nous avons une vision encore un peu... beaucoup même trop élémentaire, il y a des limites, il y a des retournements, il y a des trucs, il y a des anti-mouvements sociaux, on a fait un beau travail là-dessus quand même, voir Kosokavar qui a fait un travail magnifique, qui vient de l'étendre avec un geste d'une élégance formidable, en disant, mais le mec de Strasbourg, c'est pas du djihadiste, c'est un terroriste, c'est tout à fait autre chose.
Alors, une demande que tout le monde ferait au grand spécialiste des mouvements sociaux que tu es, y compris des non-mouvements sociaux. Peux-tu analyser en 30 secondes les gilets jaunes ?
Alors, en 30 secondes, je vais te répondre ceci. Nous ne sommes pas encore dans la nouvelle société avec des conflits de classe au sens contradiction interne. Nous sommes dans une situation élémentaire. Je vais te répondre quelle est ma position là-dessus. Ma position, c'est qu'il faut se moderniser, mais, comme on dit, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. Me foutez pas 40% des gens dans la merde. Ne noyez pas 40% des gens dans la Méditerranée. Je veux qu'on entre dans le monde nouveau, dans ce monde dont nous parlons. Je veux qu'on y entre tous ensemble, tous ensemble. Et donc les gilets, oui, d'accord, tant qu'ils ne déconnent pas, c'est-à-dire tant qu'ils ne se... Mais pour l'instant, ça va. Par exemple, il y a un test pour savoir si on tombe du côté de l'extrême droite, il y a un test en sociologie, c'est est-ce que vous êtes contre les migrants. Ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. J'ai les résultats des enquêtes de Bordeaux. Donc ça va.
J'ai peut-être une dernière question, si vous voulez bien. Une dernière question qui concerne... J'ai été étonnée par le fait que la dimension temporelle n'est pas tellement traitée dans ce nouveau monde que vous nous présentez. Et bon, dans les travaux de Manuel, il parle des flux qui dissolvent de l'espace, donc, et qui dissolvent le temps. Comment vous...
de vous donner la réponse, parce que moi, le temps, c'est mon affaire, c'est pas rien.
Oui.
Donc, qu'est-ce que vous voulez en ce moment? Le problème que je vous l'ai dit, le problème du 21e siècle, c'est l'égalité des modes de développement, c'est-à-dire c'est l'égalité des peuples. Donc, il faut d'abord avoir une dimension spatiale.
Et oui, mais...
c'est avec la dimension temporelle qu'on a fait les étapes du développement purement et simplement à l'intérieur du mode de domination coloniale. Oui, il faut dire quand même, la catastrophe, c'est que les Occidentaux, pour des raisons que je comprends, parce que la raison, elle est très simple, le système colonial était géré non pas par ces imbéciles de Français qui avaient des colonies à la con, qui n'en rapportaient rien, et les Français, ce qu'ils voulaient, c'était le sang des soldats. Bon, pas brillant comme c'est un métier de boucher, tirailleur sénégalais à Monte Cassino, c'est ça qu'on voulait. Mais les Anglais qui avaient fait quand même l'un, ils ont pensé qu'ils allaient pouvoir faire passer le système anglais en Inde. Ils ont fait ce qu'il fallait pour, puisque la femme de Mountbatten est devenue la maîtresse de Nehru. Donc on a dit, on va passer les valeurs anglaises à ces connards indiens. Bon, qui vont devenir des lords ou des sœurs. Bon. Et ça a duré 50 ans, ce qui est quand même assez remarquable, mais c'est fini. C'est fini, les Indiens, c'est des Chinois qui ont des castes. C'est-à-dire qu'ils sont très lents.
Mais je ne parlais pas de cette temporalité.
Il y a des moments où il faut penser espace.
Oui, d'accord.
D'ailleurs, ce n'est pas un hasard. Si finalement, avec tout ce que vous voulez, le type qui a lancé les idées qui ont changé notre représentation de nos territoires, c'est un géographe. Eh bien, c'est pas par hasard. Si vous voulez, la dualisation, la France d'en haut, la France d'en bas, c'est des idées de géographe. C'est pas ma manière de faire, ça me plaît pas, c'est pas du beau travail, mais c'est quand même ce qu'il fallait dire à ce moment-là.
Et l'accélération du temps, Rosa, l'instantanéité, c'est d'ailleurs quand même par rapport au développement, c'est le fait qu'on n'a plus d'horizon. On n'a plus cette temporalité, ni pour le développement de la vie, au moment où justement la longévité est là, ni pour le développement de projets de nouveaux mondes.
Alors là, je vous
réponds. C'était en cela que je voulais.
Mais là, ça a été évoqué tout à l'heure, et moi je serais plutôt du genre un brave petit moderne de campagne. C'est-à-dire que quand même, puisqu'on a évoqué avec beaucoup de gentillesse le cas des vieux cons qui ne sont pas encore complètement Alzheimer, moi je dirais, si vous pouvez arriver, je vais prendre les choses à l'envers pour être plus poli, si vous pouvez arriver à ce qu'on respecte les enfants de 10 ans, de 8 ans, de 15 ans, et puis aussi si vous n'admettez pas a priori que les gens de 80 ans sont tous des vieux gâteux, bah, je suis plutôt fou. Je suis plutôt pour parce que c'est vrai. C'est vrai. Donc, si on peut arriver à prendre la vie humaine et à prendre le bon vieux langage des campagnes ou de Pierre Michon, de dire ben, les vies minuscules, elles ont aussi une sagesse, elles ont aussi une complexité de raisonnement. Dans ces paysans pauvres dont ils tracent la fiction qui n'est pas fictive en réalité, qui est réelle, cette image de l'administration française qui, à partir de 60 ans, n'est plus bon à rien, Dieu me tue, qui laisse faire foutre. Non, c'est pourquoi on met à la retraite à 65 ans,
c'est ridicule.
Pourquoi on met à la retraite à 98 ans, à la rigueur?
Non, mais il n'y a plus de retraite. Choisie. La retraite choisie.
Si
on est autoréflexif.
Ça a raison.
Oui, oui. C'est peut-être qu'il y avait ce qui adviendra. Bien, je crois qu'on va. On vous a déjà beaucoup sollicité tout au long de cette journée. Oui, oui, oui.